Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Par le mot kamikaze, que nous disons plus volontiers kamikaze, on entend toute personne qui se tue pour tuer une personne ou un groupe de personnes considérées comme ennemies. Au commencement, il s'agissait de ces pilotes japonais qui, au cours de la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre du Pacifique, au plus fort de l'affrontement contre les États-Unis, se jetaient sur les navires américains pour les faire couler. Le bilan de ces attaques fut très impressionnant. En 2 ans, près de 14 000 pilotes kamikazes trouvèrent la mort, endommageant près de 400 vaisseaux ennemis, dont 47 furent tout bonnement envoyés par le fond. Quelle était leur motivation? Comment étaient-ils choisis? C'est ce que je vous propose de découvrir à travers l'exemple de 2 d'entre eux dans cet épisode en 2 parties. Première partie, la société du vent divin. Nous sommes à Ōita, petite ville du sud du Japon, à l'est de l'île de Kyushu. En ce mois d'avril 1945, sur les collines environnantes, les pruniers sont en fleurs. Ils font la particularité de cette région. Ici, point de cerisiers, ces fameux sakura, presque universellement associés à l'image du Japon, mais des pruniers blancs ou d'un rose plus doux. Mais l'heure n'est pas à l'évocation bucolique des paysages nippons. La guerre contre les États-Unis est à son paroxysme. Chaque jour apporte son lot d'annonces tragiques. Tout semble annoncer une catastrophe imminente. Sur la place d'armes de la base aérienne de la ville, on a rassemblé des troupes parmi lesquelles un groupe d'aviateurs. Il fait chaud. Le soleil est à son zénith. À l'ouest, au-dessus des collines, d'épais cumulus annoncent un orage. Le caporal Yasuo Kuwahara est l'un de ces jeunes aviateurs. À 20 ans, il s'est déjà couvert de gloire lors de missions héroïques contre les chasseurs américains. Comme tous les pilotes d'élite de la région, il a été transféré à Ōita pour encadrer une opération qui nécessite la présence des meilleurs éléments de l'armée de l'air. Les 16 pilotes réunis sur la place d'armes sont séparés en 2 unités, l'une de 12 hommes, l'autre de 4. Les 12 premiers sont groupés autour d'un officier qui a déplié une grande carte sur une table de camp. De la pointe de son crayon, il indique des endroits précis. Yasuo Kuwahara fait partie des 4 pilotes qui restent à l'écart. Son cœur bat à tout rompre, mais son visage ne laisse rien paraître de son trouble. Les sentiments les plus contradictoires bataillent dans son esprit. N'est-ce pas un honneur insigne d'avoir été choisi avec 3 de ses camarades pour escorter les 12 pilotes qui vont se précipiter avec leur avion sur les navires ennemis? Jusqu'au déjeuner, il s'est efforcé de faire taire ses tourments. Une parole tournoie en lui sans cesse, la voix d'une amie de sa mère. « Il n'y a pas d'honneur à mourir pour une cause perdue. » Certes, il n'est pas désigné aujourd'hui pour figurer au nombre des kamikazes qui vont mourir pour leur pays et pour l'empereur. Mais son cœur s'est brisé lorsque, consultant la liste des pilotes désignés pour la mission suicide, il a lu le nom de son meilleur ami, Tatsuno. Ils se connaissent depuis l'âge de 4 ans. Ils ont grandi ensemble, partagé les mêmes écoles, les mêmes jeux. Tous deux ont rêvé de devenir aviateurs. Dans leur village d'origine, ils se sont inscrits au club de vol à voile. Yasuo est rapidement devenu un virtuose de la discipline, au point d'être sacré champion du Japon. Puis, la guerre est venue. Les deux garçons de 15 ans n'ont plus rêvé que d'une chose, devenir pilote de guerre. Ils n'ont pas eu à attendre bien longtemps. Un beau jour, un officier s'est présenté au domicile des parents de Yasuo, ayant appris que leur fils était champion national de vol à voile. Son ami Tatsuno est enrôlé peu de temps après. Tous deux sont inséparables et vont rivaliser d'héroïsme lors des combats aériens. Yasuo est trop occupé à réprimer ses larmes pour penser à la peur qui, lors de chaque mission, envahit tout combattant, si vaillant soit-il. Parmi les 12 kamikazes qui reçoivent leurs dernières instructions, il scrute le visage de son ami.
« Je regardais Tatsuno. Il ne semblait plus faire partie du monde des vivants. On aurait dit que son esprit avait quitté son corps. »
Chaque pilote kamikaze a noué un foulard autour de sa tête représentant le soleil levant, symbole de l'Empire Nippon. Astre rouge du sacrifice sur le tissu blanc représentant la pureté de l'action. Dans leur ceinture, ils ont cousu 2 pièces de 5 sens. En japonais, 4 sens se dit phonétiquement comme le mot « mort ». En avoir 5 signifie donc aller au-delà de la mort. De part et d'autre, de leur ceinture, sont inscrits des mots évoquant l'attaque et la destruction. Les kamikazes ont interdiction d'emporter leur sabre dans l'avion car il pourrait détériorer le gyroscope et gêner le pilotage. On insiste bien auprès d'eux sur la nécessité de rester les yeux grands ouverts jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de monde sur la place d'armes. On a autorisé tous les habitants qui le souhaitaient à assister au décollage de l'unité. Les écoles primaires ont envoyé leurs élèves, garçons et filles, afin de former leur esprit à l'héroïsme. Le colonel prononce un discours.
« Et maintenant, vaillants camarades, souriez en partant. Vos ancêtres vous réservent une place de choix. Les samouraïs du ciel, tous les guerriers morts sont là pour vous accueillir. »
La cérémonie s'achève par l'hymne chanté en commun par tous les pilotes.
« La couleur de l'aviateur est celle de la fleur du cerisier. Regarde les fleurs de cerisier tombées sur les collines de Yoshino. Si nous sommes de fiers enfants de la race de Yamato, mourons en combattant. »
On échange un verre de saké au cri rituel de « Tenoyeka Banzai ». « Vive l'empereur !» Yasuo observe son ami.
Mais maintenant, je ne pouvais penser qu'aux réactions d'un seul homme. Il était là, avec Nakamura, et il marchait dans ma direction. Tout en lui paraissait irréel, l'esprit détaché, tandis que le corps accomplirait mécaniquement ce qui lui était demandé. Un étrange sourire se dessinait sur cette face de cire.
Tatsuno s'approche de son ami. Il lui tend un objet enroulé dans un linge.
« Donne ça à mes parents. »
C'est son petit doigt qu'il a coupé, selon la tradition, pour que sa famille puisse, après l'avoir incinéré, le vénérer comme relique. Un instant de silence embarrassé. L'heure du départ est venue. Les deux amis tombent dans les bras l'un de l'autre. La poitrine de Yasuo se soulève de sanglots. Il faut plonger au cœur de l'esprit japonais pour comprendre le sens de cette folle initiative de guerre que constituent les kamikazes. Le terme, qui signifie « vent divin » ou « Saint-Esprit », désigne le vent qui souffle sur le sanctuaire d'Ise, le plus célèbre du Japon, un temple dédié au culte de la déesse Amaterasu. Ce vent aurait soufflé en rafale sur la horde de Kubilai Khan au XIIIe siècle, sauvant le Japon d'une invasion mongole. Mais il faut attendre le XIXe siècle pour que se constitue une société du vent divin. Ses membres prêtent serment à l'empereur et s'engagent à donner leur vie pour l'Empire. Les textes fondateurs de l'ordre reprennent tous les codes d'honneur des samouraïs. Les samouraïs, ce sont ces combattants qu'on pourrait comparer à nos chevaliers du Moyen-Âge. Le mot « samouraï » en japonais signifie « celui qui sert ». Donc dans le code d'honneur des samouraïs, il y a le don de soi, le courage et l'engagement à se faire « seppuku », c'est-à-dire « harakiri », en cas d'échec. Le harakiri ou seppuku, c'est le suicide rituel par éviscération. Les samouraïs Ces hommes dont les faits d'armes et la mission sont considérés comme divins sont les ancêtres des kamikazes de 1945. Les Japonais avaient d'abord refusé l'idée d'organiser des missions suicides et de créer pour cela des escadrilles spéciales de kamikazes. Mais devant la puissance de la flotte américaine massée au large des Philippines dans le Pacifique, ils ont fini par s'y résigner. Ils ont constaté que leurs bombardements depuis des avions de chasse n'avaient que 10% de réussite, alors qu'avec ces missions suicides, eh bien, ils en escomptaient autour de 30%. Ce qui les a finalement convaincus, c'est le sacrifice du contre-amiral Harima. Le 15 octobre 1944, devant ses subordonnés médusés, il a pris place dans un chasseur 052 et a jeté son appareil sur le porte-avions américain USS Franklin, qu'il a manqué de peu. 10 jours plus tard, les kamikazes sont apparus officiellement au cours de la bataille du golfe de Leyte, une offensive majeure de l'armée américaine pour la reconquête des Philippines. Ils ont coulé une quarantaine de navires américains et en ont endommagé une centaine. Ils ont été si efficaces que l'armée américaine a préféré ne dévoiler aucune info sur les dommages subis à cause d'eux pour ne pas démoraliser l'opinion américaine. Pour les jeunes Japonais sous les drapeaux depuis 1941, devenir kamikaze, c'est l'occasion d'aller jusqu'au bout de leur engagement. Alors au début, les volontaires sont 10 fois plus nombreux que les avions disponibles. On va utiliser les plus vieux coucous, les plus délabrés, qui suffiront pour un vol unique. La carlingue est chargée de 250 ou 500 kilos d'explosifs. Quant aux pilotes, ils sont choisis parmi les catégories extrêmes, les pires et les meilleurs. Les pires, qui souvent sont simplement les débutants, sachant à peine piloter, serviront de leurre. La plupart se font pulvériser par la défense aérienne ennemie. Les pilotes d'élite, eux, sont envoyés s'écraser sur les navires ennemis. Le commandement est sûr qu'ils ne manqueront pas leur cible. Les plus grosses attaques de kamikazes vont avoir lieu au Japon pendant la grande bataille d'Okinawa, dernière grande bataille de cette guerre, entre avril et juin 1945. Ils seront impliqués plus de 400 avions suicides, ainsi que les premiers Oka. Les Oka sont des avions monospace miniatures, propulsés par fusée jusqu'à 1000 km/h, portant dans leur nez une tonne d'explosifs. Une fois enfermé dans le cockpit de ces Oka, le pilote n'a plus aucun moyen de sortir ou de changer d'avis. Il n'a que 5 minutes environ entre le largage et la percussion. Lors de cette bataille, les kamikazes japonais vont couler 20 navires et en endommager plus de 200. Pour les jeunes recrues, s'il ne s'agit pas d'une partie de plaisir, la mission s'intègre parfaitement dans leur mentalité.
Pendant près d'une année, nous avions appris à faire face à la mort. Il serait plus correct de dire que nous nous y préparions depuis des millénaires. Toute notre philosophie était basée sur une acceptation virile du destin.
Depuis des millénaires, la tradition du suicide rituel fait partie des coutumes profondément ancrées dans les âmes. Le Japonais n'accepte pas le déshonneur. Une défaite au combat, un échec lors d'un examen décisif, une trahison amoureuse, il n'est pas rare de voir le soldat vaincu, l'étudiant recalé ou l'amoureux éconduit, mettre fin à ses jours. Les modalités de suicide sont plus larges que la seule éventration par le sabre qui excite l'imagination populaire. On peut aussi en finir en se tranchant la carotide ou en se tirant une balle dans la bouche. À l'automne 1945, les autorités japonaises savent que la guerre est perdue. La décision d'envoyer des avions suicides sur les bateaux américains n'est pas, comme on pourrait le croire, portée par un cynique mépris des vies humaines. Officiers supérieurs et simples hommes du rang, toute l'échelle hiérarchique est affectée par un seul sentiment, le devoir de donner sa vie pour l'empereur, auquel tout soldat prête serment et pour l'Empire du Japon. Si la guerre est perdue, le moment est venu de consentir au sacrifice ultime. Ces hommes dont le sort est scellé et qui dans moins d'une heure seront morts, sont-ils pour autant heureux d'en finir avec la vie et insensibles à la peur et au chagrin? Bien sûr que non. Mais face à la tentation de montrer leurs sentiments les plus instinctifs, les enseignements reçus lors des années d'instruction constituent autant de barrages efficaces.
Sois convaincu que l'honneur pèse plus lourd qu'une montagne.
Tous ont en tête ces poèmes bouleversants de sincérité.
Longtemps j'aurai en ce monde vécu, par la grâce des dieux de Yamato, mais enfin vient le jour où je vais aborder au pont flottant des cieux.
Pourtant, les méthodes employées depuis des mois par le commandement sont d'une grande cruauté. Chaque jour, on rassemble dans chaque unité un groupe de pilotes désignés d'office pour la mission suicide. À l'appel de leur nom, il leur est demandé s'ils acceptent ou non de donner leur vie. Ils ont la liberté de refuser. Dans certains cas, les pilotes qui se sont dérobés à leurs devoirs n'ont pas été inquiétés. Mais leur nom a été couvert d'opprobre, de honte. Ils ont été frappés du sceau de l'infamie. Mais dans bien d'autres cas, le scénario ne s'est pas déroulé de cette manière.
Ceux d'entre vous qui ne veulent pas donner leur vie pour notre grand empire nippon n'y seront pas forcés. Qu'ils lèvent donc la main, ceux qui ne se sentent pas capables d'accepter cet honneur, maintenant.
Quelques hommes lèvent la main. Plusieurs secondes de lourd silence.
Voilà 6 hommes qui reconnaissent ouvertement leur déloyauté. 6 hommes qui manquent complètement de sens de l'honneur. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, ils feront partie du premier groupe d'attaque de kamikazes.
En ces ultimes combats, nombreux sont les kamikazes qui, loin d'être réellement volontaires, ont été désignés d'office. Est-ce le cas de Tatsuno, qui s'apprête à aller se cracher sur un bateau américain? Et son ami Yasuo, héros de ce récit. Son heure viendra, c'est sûr. A-t-il la moindre chance d'en sortir vivant? C'est ce que je vous raconterai dans la seconde partie de cet épisode consacré aux kamikazes.